Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent s'exprimer sur Internet, prendre le micro, la caméra, l'appareil photo, le stylo, le clavier, je ne sais quoi, pour publier des choses, pour essayer d'en vivre, de se faire connaître et puis de peut-être de trouver un nouveau métier pour certains, je ne sais pas. C'est déjà le 20e épisode de ce podcast parce que nous sommes en quotidien depuis maintenant presque 3 semaines. Alors je dois vous le dire, le quotidien va s'arrêter pendant quelques temps, tout simplement parce que avec eux, l'été, il va y avoir les vacances, etc. Et puis ça permettra de faire un petit point. Alors demain, j'enregistrerai un 21e épisode qui sera en fait un petit bilan des 3 premières semaines d'enregistrement. Et puis ensuite, on passera sur un rythme un petit peu différent que je n'ai pas défini entièrement. Et c'est là que je voudrais bien avoir votre avis. C'est que si vous avez un avis sur la régularité, si vous pensez qu'il en faut un tous les jours, vous me direz. Si vous pensez qu'il en faut un, deux, trois, quatre par semaine, je ne sais pas. Toujours est-il que il est certain qu'il y a des moments où je n'arriverai pas à le faire en quotidien, tout simplement parce que je serai beaucoup dans les déplacements, les transports, etc. Mais ça, c'est un petit peu ma petite cuisine. Donc on verra un petit peu comment ça va se faire. Toujours est-il que, quelle que soit la régularité, j'ai décidé de vous parler, je vous parlerai toujours de quelques outils en particulier. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle Coschedule, qui était, j'appelle, mon outil de publication massive. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil qui a changé ma vie ces dernières semaines, qui s'appelle Review, que vous trouverez à l'adresse getreview.co.co, qui est tout simplement un outil d'envoi de newsletter, et qui vraiment, je vous le dis, moi, m'a vraiment changé ma manière de faire du mail ces derniers temps, et m'a surtout remis une facilité dans mon processus d'envoi de mail qui est, j'ai envie de dire, c'est presque magique. Alors, d'abord, je voudrais vous replacer, vous rappeler quand même l'importance du mail dans une stratégie digitale de communication numérique. C'est que c'est l'un des trois piliers. Enfin, vous avez trois grands piliers, je l'ai toujours, je vous le dis depuis le début. Vous avez une partie qui est votre site internet, ce que vous faites, on va dire, ce qui est référençable sur Google, au sens large, sachant que moi, je considère que les réseaux sociaux ne sont pas référençables, ou tellement peu. Donc le deuxième pilier ensuite ce sera les réseaux sociaux, et puis vous avez un troisième pilier qui est le mail. Le mail n'est pas un outil qui est vraiment référençable en tant que tel. À la limite, vous allez référencer, vous avez publié les anciennes newsletters que vous pouvez faire pour essayer de montrer ce que vous faites, etc. Mais le mail est un outil, j'ai envie de dire qu'on est plutôt dans de la fidélisation, mais on peut faire plein de choses avec le mail. Le mail a un avantage, c'est que tout le monde a une adresse mail. Voilà, la première chose que vous faites quand vous arrivez sur Internet quasiment, si vous abonnez chez un fournisseur d'accès, c'est qu'on vous donne un mail. Vous arrivez dans un nouveau boulot, on vous donne un mail. Partout, on vous donne du mail. Donc, vous avez du mail. Je ne sais pas combien vous ouvrez de boîtes mail. En général, allez, on va faire une moyenne. Vous devez avoir une boîte mail pour le boulot, une boîte mail perso, des fois une boîte mail poubelle, des fois un petit peu plus. Alors, moi, j'en ai plus. J'en ai une par blog, etc. Mais chacun, après, on a nos boîtes mail, on a nos petites habitudes, etc. Et la caractéristique, c'est que si on regarde ses boîtes mail, si on regarde un peu ses habitudes, je suis sûr, mais presque sûr, que vous l'ouvrez tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Peut-être même vous vous disciplinez pour ne pas l'ouvrir plus de deux fois par jour. Moi, c'est mon cas. Mon truc à moi, c'est de ne pas l'ouvrir. Déjà, par exemple, alors mis à part ce matin, parce que j'avais quelques trucs à regarder pour préparer cet épisode, moi, mon truc à moi, c'est de ne pas le regarder avant le petit déjeuner. Et entre le moment où je me lève et le petit déjeuner, je fais... J'en fais des choses, je peux vous dire. Mais pas de mail. Y a même des lois qui veulent empêcher les gens d'envoyer, de regarder des mails à partir de certaines heures, mais c'est un autre sujet. Mais la réalité, c'est qu'en fait, quand on a des adresses mail, on a tendance à les regarder. Et n'oubliez quand même pas un truc, c'est que le mail fut longtemps un outil qu'on regardait sur son ordinateur. Et maintenant, plus d'un mail sur deux est désormais ouvert sur un smartphone. Moi, quasiment, je crois que j'ouvre plus mes mails sur mon smartphone que sur mon ordinateur. Regardez un petit peu vos usages et dites-vous que ce qu'on dit sur le responsive, l'importance d'avoir un mail, enfin d'avoir un site adapté au mobile, ça vaut aussi pour le mail et peut-être même encore plus maintenant parce que je pense que ça fait partie des outils qu'on va finir par ne plus regarder que sur son smartphone ou sur d'autres outils ou je sais pas comment, mais que sur ordinateur. Sauf dans les cas de boulot, on a des mails compliqués à faire, comme on a ce problème de dire on reçoit trop de mails, etc., le tri quand même sur les applications smartphone est souvent beaucoup plus simple. Alors, après, beaucoup disent que le mail est mort, et personnellement, je pense que le mail n'est pas mort, ne sera pas mort, ne va pas mourir. Je vous rappelle que le mail a 40 ans, et que on a beau moyen essayer de le remplacer par plein d'autres choses, il reste toujours là, quoi. Enfin, voilà. Pourquoi? Alors, notamment parce que c'est un outil qui est quand même gratuit. Envoyer un mail reste gratuit, hein, enfin, même si très peu coûteux, on va dire. Sauf si vous abonnez à des plateformes d'envoi de mail dont on parlera tout à l'heure, mais où là ça vous coûtait quelques centimes pour envoyer un mail. Mais sinon, si vous voulez envoyer un mail à quelqu'un, ça reste gratuit, quoi. Voilà. C'est un outil qui est pratique à envoyer, qui est alors. Moi, j'aime bien le côté asynchrone du mail, mais que les gens ne comprennent pas. Je vous rappelle que la communication peut être synchrone ou asynchrone. Synchrone, c'est un truc bête, hein. C'est je vous appelle au téléphone, je vous parle, ben, je suis en synchrone. Je vais vous voir à votre bureau, je vous parle, je suis en synchrone. Je vous envoie un mail, ben, vous l'ouvrez quand vous l'ouvrez. Et on est en asynchrone. Alors, les gens ne le comprennent pas. J'ai détesté ça dans mon travail. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail, qui venait me voir, qui me dit « Je t'ai envoyé un mail, pourquoi tu ne me réponds pas ?» Et qui voulait pas comprendre que moi le mail je l'ouvrais très peu dans ma journée. Enfin voilà, le but du jeu d'ouvrir le mail deux fois par jour. Au boulot, je l'ouvrais le matin en arrivant, je l'ouvrais des fois en fin de matinée ou à la reprise, et puis après le déjeuner, et puis après une fois le soir pour s'il y avait un truc à checker. Mais il y a des gens, ils envoient un mail, deux minutes après ils vous appellent, ils disent t'as pas répondu à mon mail. Non, le mail est un outil qui est asynchrone, et moi j'adore ce côté asynchrone, parce que finalement vous pouvez m'envoyer un mail à n'importe quelle heure, moi je peux le voir à n'importe quelle heure et répondre à n'importe quelle heure. Mais en fait, on a plein d'outils de gens qui pensent qu'il faudrait que le mail soit plus synchrone, etc. Et on arrive sur les messageries, sur les Slack, etc. Mais c'est un autre sujet. Mais l'avantage quand même du côté asynchrone, c'est que finalement, les gens peuvent regarder le mail quand ils sont... ils sont pas obligés de regarder le mail quand ils sont pressés ou je sais pas quoi. Ils peuvent aussi se dire, on peut regarder certains mails quand on a le temps. Le tout, c'est qu'ils n'oublient pas de le regarder. Sur l'histoire des gens qui regardent le mail tous les jours, je vous rappelle notamment que le dimanche est un très bon jour pour envoyer ses newsletters. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais dans une de mes newsletters. Mais si vous faites de la vente, du commerce en ligne, etc., et je dis très souvent à mes clients qui font du commerce en ligne, j'ai dit, le dimanche est peut-être le seul jour où ils ont le temps de sortir leur carte bleue réellement, quand ils sont sur leur ordinateur. Alors il y a le soir après 21h, il y a des fois le matin, mais pas toujours. Mais au boulot, s'ils reçoivent une newsletter avec une super offre, un truc à acheter, si c'est pas leur boulot, en général, ils sortent pas la carte bleue, parce que, ou alors c'est sur une pause, c'est discrètement, etc. Le dimanche, tranquillement, puis-je dire, en plus, l'hiver, quand il fait mauvais, devant le feu de bois, ou sur un canapé bien moelleux, vous avez une offre qui vous arrive sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre smartphone, vous avez le temps de cliquer, de regarder ce qui se passe derrière, etc. Donc, c'est un très bon outil, notamment de fidélisation, de vente. En fidélisation, une fois que vous avez l'adresse mail de quelqu'un, vous pouvez lui envoyer un mail très régulièrement, lui demander comment ça va, etc. Alors, il y a plusieurs sortes de mails, hein. Il y a les mails, je viens de dire, un peu marketing, on a un truc à vendre, on a les mails un petit peu CRM, c'est-à-dire relation client. C'est vous avez commandé un truc aujourd'hui, trois semaines après, on vous envoie un mail pour savoir si tout s'est bien passé, si vous pouvez noter le produit ou... Mais on pourrait faire plein de choses. Là, je parle de quelque chose qui ressemble à de la boutique en ligne, mais si vous faites de la formation, par exemple, ou si vous vendez... Imaginez, je sais pas, vous faites de la formation en langue. Quelqu'un vous achète une petite formation, vous vendez, je sais pas, du PDF par exemple, en disant si je vous fais un PDF de 50 pages avec les 50 expressions à connaître indispensables dans votre métier, dans un métier technique ou je sais pas quoi. Je parle de langue, mais ça peut être un métier technique ou n'importe lequel. Les personnes l'achètent, vous pouvez très bien demander trois semaines après, voilà, vous avez fini de lire la formation, le PDF, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez des questions? Comment je peux vous aider, etc. Donc tout ça, voilà, vous avez tout un tas de choses qui peuvent se faire. C'est un très bon outil là-dessus. Vous pouvez aussi faire des choses, par exemple, je parlais de formation, mais vous pourriez faire des petites formations. Par exemple, moi je m'étais inscrit à une formation sur le minimalisme faite par le site No Sidebar. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site américain qui fait un cours, c'est 30 jours, un email par jour, avec des petits conseils sur sa boîte mail, sur son état d'esprit, sur des choses comme ça. Et c'est un mail qui arrive, qui est très simple, hein, on est dans le minimalisme, hein, avec, je sais même pas s'il y a un logo, mais c'est surtout du texte, vous voyez, c'est un truc qui est simple à lire, Alors eux, c'est envoyé avec des plateformes automatiques, parce que quand vous vous inscrivez, après, à partir du lendemain, bah, tous les jours, il vous fait payer, puis tous les jours, pendant 30 jours, il vous envoie des mails. C'est au passage un truc qui marche vachement bien, parce que la personne, elle a automatisé l'envoi de mails. Mais c'est pas notre sujet du jour, mais on pourra revenir dessus un jour. Le mail est tellement intéressant, moi je dis toujours aux entreprises, mettez-le dans vos actifs, hein, quand vous avez une adresse mail et que vous savez que vous allez pouvoir vendre quelque chose aux gens, ben, c'est du business qui va rentrer. Et donc on a beaucoup de stratégies de contenu et de monétisation qui sont basées sur le mail, soit pour la fidélisation, soit pour du marketing, soit pour l'envoi d'informations, soit juste pour fidélisation. D'abord, c'est rappeler qu'on existe, hein. Donc vous avez les newsletters hebdomadaires, mensuels, les bilans, etc., les trucs de vente, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez autant de gens qui essayent de capter votre mail. Les boîtes surgissantes sur les sites, moi je déteste ça, je trouve ça insupportable. D'ailleurs, si vous regardez mes blogs, mes sites, il n'y a pas de boîte surgissante pour vous demander des mails. Je suis peut-être très con, mais parce que je sais que ça marche, je sais que c'est très efficace. Vous arrivez sur un site, on vous propose un PDF gratuit contre un mail. Moi souvent je le remplis. Alors je remplis pas avec mon adresse perso, je le remplis avec j'utilise un service qui s'appelle Close2Shop qui est fait par un copain, voilà, et qui est un outil qui est quand même super pratique, parce qu'il vous permet de rassembler dans un seul mail quotidien toutes les newsletters que vous recevez d'habitude. Ça c'est quand même super pratique. Donc et là il est bien rempli, par exemple ce matin, tout à l'heure j'ai regardé, j'avais 20 mails je crois à peu près. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 20 mails dans ma boîte, j'en ai qu'un. Donc vous voyez le gain, et puis je lis ce qui m'intéresse, et si j'ouvre pas le mail, bah je pourrais la lire un autre jour. Bon. Les boîtes surgissantes, donc pour revenir à ça, moi je les supporte pas, mais elles sont efficaces. Voilà, tous ceux à chaque fois qu'on utilise ça, elles sont efficaces. Moi personnellement, je les déteste, donc je veux pas les imposer à mes lecteurs. Voilà, moi mes boîtes d'abonnement aux newsletters, elles sont en bas de mes articles, dans des colonnes, dans des choses comme ça. Et puis je fais du relais dans les réseaux sociaux, mais ma manière à moi de faire, c'est comme ça. J'aime pas qu'on me casse les pieds avec des trucs qui surgissent dans tous les sens, donc j'aime pas casser les pieds des autres avec ça. C'est voilà, moi c'est mon éthique, ma petite étiquette de créateur de contenu, elle est là-dedans. L'avantage du mail aussi, par rapport aux réseaux sociaux notamment, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme de classement de messages quand ils arrivent. En fait, un mail qui part, alors bon, il y a 20% de mails alors je parle pas des spams, hein, parce que les spams, il y a un tel volume de spam, c'est l'enfer. Mais il y a 20%, on estime à peu près que 20% des mails qui devraient arriver chez des gens n'arrivent jamais. Parce que justement, il y a ces spams, il y a des outils de... Vous voyez, Gmail avec les espèces d'onglets, de boîtes, etc. Mais moi, à la limite, je trouve pas ces trucs-là si problématiques. Personnellement, Interflora, à une époque, je sais pas s'ils le font toujours, vous faisiez des mails pour vous expliquer comment passer leur mail de la boîte offre ou réseau, ou je sais pas comment, à la boîte principale. Moi, personnellement, je regarde tous les onglets, alors peut-être pas au même moment, etc., mais j'ai discuté avec quelques personnes. Alors, je sais pas si c'est votre cas, mais vous pouvez m'envoyer des messages, on peut en discuter sur Twitter, Facebook, dans le groupe Facebook, etc. Moi, je les regarde et j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit qu'ils les regardaient, mais pas en même temps, quoi. Entre la boîte principale, les onglets secondaires, etc., ils les regardent différemment. Mais ils finissent par les regarder, des fois, quand ils ont plus de temps. Alors, des fois, c'est vrai que, par exemple, les notifications réseaux sociaux, j'ai une tendance à les balancer, quoi. À la limite, s'il y a un onglet dans lequel il ne faudrait pas que vous tombiez chez moi, c'est l'onglet réseaux sociaux. Parce que j'ai, souvent, c'est les notifications, j'essaie de les couper au fur et à mesure, mais quand ça tombe dedans, j'ai un nettoyage presque automatique, je sélectionne tout, je balance. Il n'y a pas d'algorithme de classement. En ce moment, là, sur Facebook et notamment sur Instagram, ça s'agite. Parce que vous avez vu, Facebook a lancé ses nouveaux algorithmes anti-fake news. Hein, à l'origine, c'est ce qu'ils disent. Donc, si vous mettez trop de liens sur votre profil perso, et ben quelque part, vous êtes considéré comme un spammeur, un fake newser ou je sais pas quoi, et donc ils peuvent ne pas montrer vos messages. Le changement, c'est l'automatisation un petit peu des choses, mais qui était déjà très automatique, mais c'est aussi le volume a priori. Enfin bon, il y a une espèce de truc à comprendre, il faut qu'on apprenne à l'utiliser un peu mieux ce truc-là. Mais je voulais vous rappeler qu'en fait, ça a toujours été le cas depuis très longtemps, parce que l'algorithme de classement fait que si vous mettez deux liens ou deux messages sur Facebook, sur votre page Facebook ou votre profil à une heure d'intervalle, en général, il y en a un qui va cannibaliser l'autre. La nouveauté aussi, c'est que ça, ils l'ont ramené sur Instagram. Et que maintenant, sur Instagram, j'en parlais avec les Instapods, etc., les un lien, un clic pour un clic, etc. Et ben, on a ces mêmes pratiques qui sont faites. Parce qu'en fait, ben, ce qui marche bien sur Facebook, qui leur permet de rapporter de l'argent à Facebook, ça marche très bien sur Instagram. Donc, le tri des photos. Et moi, je trouve un peu con. Parce que des fois, il y a des photos de l'instantané qui apparaissent très longtemps. Et avant, moi, je disais très souvent que Instagram, c'était jouer un truc, je le prends en photo, je le montre aux gens. Et ça, c'est de moins en moins vrai, voilà. J'ai même lu hier un article qui disait que sur Instagram, il faudrait poster plus qu'une photo par jour. Ou alors, si vous avez plusieurs photos par jour à publier, publier un album de 10 photos, vous voyez. Moi, j'aime pas ça. Enfin, j'aime bien les albums, mais si je vais en publier une le matin, une le soir, et ben, j'en publierai une le matin, une le soir. Et à nous de voir comment les gens réagissent, quel est l'algorithme qui fait ça, etc. Quitte des fois à combler un peu avec les stories si on a plus de choses à raconter. Mais on pourra reparler de ça au fur et à mesure. Donc si vous passez la barrière de l'anti-spam et de ces fameux trucs à engouler, enfin moi qui dans Gmail, hein, qui sont pas très problématiques pour moi, le seul filtre qui va s'appliquer, c'est la personne qui le reçoit le mail, elle va appliquer un filtre qui marche en deux temps. Le premier temps, c'est est-ce que je connais l'expéditeur? Est-ce que je me rappelle m'être abonné à cette personne-là? Est-ce que je lui fais confiance? Et on reparle de la notion de confiance. Est-ce qu'il m'envoie régulièrement des mails? Et la confiance, c'est est-ce qu'il m'envoie régulièrement des mails et est-ce que je trouve que ces mails sont intéressants? Si c'est le cas, généralement, vous ouvrez le mail. Est-ce que le titre m'intéresse? Alors, si c'est une newsletter, en général, on a une tendance à numéroter. Moi, j'ai ma lettre du créateur de contenu, 1, 2, 3. J'ai ma lettre lifestyle, 1, 2, 3, etc. Sur Supermounia, j'ai des lettres où j'ai le titre des articles qui apparaissent pour essayer de choper les gens. C'est des stratégies, c'est à vous de voir. Les deux techniques ont leur avantage. Hein. Il y en a une, les gens vont repérer, vont dire « Ah bah tiens, ça, je sais ce qu'il y a dedans. » Dans l'autre, ils vont se repérer peut-être un peu différemment, mais pour les accrocher par le sujet même. Je pense que les deux stratégies sont à tester. Voilà, il n'y a pas une mieux que l'autre, je pense. Les deux stratégies sont à tester. Rappelez-vous quand même d'un truc. C'est que votre titre doit être relativement court, parce que les boîtes mail coupent les messages, ils vont les tronquer, surtout sur smartphone, alors des fois c'est en une ligne, des fois c'est en deux lignes, etc. Et rappelez-vous aussi que normalement la première ligne de votre mail, elle peut apparaître aussi, et donc dedans on ne met pas, si vous voulez voir ce mail dans la newsletter, sur le web, cliquez dessus ou quoi que ce soit, il faut mettre une vraie phrase de texte. Mais on pourra revenir, on pourra creuser un peu plus ça plus tard. Donc le premier filtre, je vous l'ai dit, c'est la personne, elle va dire, bah tiens, je connais la personne, le titre m'intéresse, j'ouvre le mail. C'est comme la vitrine d'une boutique, hein. Si vous voulez l'image, vous passez devant un magasin, vous connaissez le magasin à son logo, sa devanture, sa marque, le nom, et puis vous regardez la vitrine, vous dites « Ah bah tiens, c'est sympa ce qu'il y a en vitrine, je pousse la porte ». Une fois que vous êtes dans la boutique, quelque part après, le boulot, c'est à vous de le faire, c'est est-ce que vous êtes capable de vendre ce que vous avez à vendre, est-ce que vous allez inciter les gens à cliquer sur le bon lien, et donc là, c'est votre contenu qui doit intéresser les gens. Est-ce que vous arrivez à les faire lire? Est-ce que vous arrivez à les faire cliquer sur des choses, sur des images, sur des liens? Est-ce que vous mettez des liens vers vos contenus à vous, vers les contenus des autres, vers ce que vous avez à vendre, etc. Là, c'est vous qui maîtrisez ce contenu-là, et suivant ce que vous allez mettre dedans, et ben, ça va intéresser ou ça va pas intéresser. On a dans le mail, dans les plateformes d'envoi de newsletter, les statistiques de qui a ouvert les mails, qui a cliqué, etc. Moi, des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui ouvrent 5 ou 6 fois les mails, qui cliquent sur un ou deux liens, 10 liens. Des fois, j'ai des newsletters qui sont partis avec 10 liens. J'avais des gens qui avaient ouvert les 10 liens. Voilà, c'est comme ça. Et puis, j'ai un jour une newsletter qui avait été ouvert 8 fois par la même personne, mais elle avait ouvert 8 fois le même lien. Et c'était... c'est un truc qui arrive régulièrement, mais 8... Je m'en étais rappelé parce que je m'étais dit, mais pourquoi? Et en fait, c'était une vidéo avec un tuto. Je pense qu'elle allait voir régulièrement les trucs là-dedans. Bref. Toujours est-il que le contenu du mail, la personne le maîtrise et fait ce qu'elle veut. Elle fait quand même deux trucs potentiels. C'est que si le contenu du mail ne l'intéresse pas, elle va se désabonner. Donc elle peut chercher le bouton des inscriptions, des abonnements. Et si elle ne trouve pas le bouton des abonnements, ou si elle est un peu taquine, ou emmerdeuse, comme vous voulez, elle peut appuyer aussi sur le bouton spam, déclarer en spam. Alors là, c'est le début des problèmes. Si vous êtes trop de gens qui vous déclarent en spam, vous devenez un spammeur. Et donc là, ça devient compliqué. Si elle se désabonne, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux qu'une personne se désabonne plutôt que de recevoir un mail qui lui sert à rien. Surtout que sur les plateformes type MailChimp ou Review dont je vais vous parler, au bout d'un moment, quand vous passez un cap du nombre d'abonnés, bah ça, vous payez quoi. Donc ça sert à rien, par exemple, d'avoir 2000 abonnés. S'il y en a que 50 qui ouvrent, Si vous payez pour envoyer 2000 mails, mais qu'il n'y en a que 50 ou 100 qui ouvrent, bon, c'est pas un super taux d'engagement. Hein. En général, on est plus haut que ça quand même. Mais dans tous les cas, au bout d'un moment, si vous vous rendez compte qu'une personne n'a jamais ouvert le mail, mais dans 10 ou 15 fois, moi sur MailChimp, je fais des segments et je finis par n'envoyer ça que qu'à ceux qui l'ouvrent régulièrement. Ça me coûte moins cher au final, hein, parce que quand vous arrivez dans les moments où il faut commencer à payer, des fois après, au fil des mois, le montant peut être important. Mon review ne vous permet pas de faire ces fameux segments, etc. Les statistiques sont encore légères, mais je vais vous montrer qu'il a bien d'autres avantages que ça. Donc vous avez compris à peu près l'essence du mail, pourquoi je trouve le mail important. Alors, dans un mail, vous pouvez tout faire, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. L'avantage du mail, c'est que c'est un outil que vous maîtrisez. En fait, c'est votre outil à vous, c'est comme votre site internet finalement. Vous mettez ce que vous voulez, la forme que vous voulez, etc. Alors bien sûr, méfiez-vous de l'ergonomie, des couleurs et autres, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez des images, vous mettez des images, vous mettez du texte, vous mettez du texte. Il n'y a qu'un truc, c'est la vidéo. Pour l'instant, une vidéo ne s'affiche pas dans un mail. Un GIF animé s'affiche dans un mail de manière très bien. Rappelez-vous quand même d'un truc. Beaucoup de navigateurs de clients mail sont configurés pour ne pas charger les images. C'est le cas par exemple de Outlook, qui par défaut n'ouvre pas les images. Mais c'est le cas aussi de Gmail par exemple et de plein d'autres plateformes. Normalement, votre mail devrait être compris sans les images. Voilà, si vous mettez des images, il faudrait que votre mail sans les images soit quand même compris. Alors, puis en plus, si vous avez que des images ou beaucoup trop d'images dans votre mail, vous êtes considéré comme un spammeur. Donc voilà, pourquoi il faut mettre du texte. Alors, vous pouvez vraiment tout faire. Je vous donne quelques exemples. Vous pourriez lister vos derniers articles de blog, par exemple, vos derniers podcasts, vos dernières vidéos, et l'envoyer ça à des abonnés. Vous pourriez faire un billet de blog ou un contenu spécial réservé aux abonnés de la newsletter. Par exemple, un petit édito, un petit message d'encouragement, un truc un petit peu rien que pour eux, vous voyez. Même si c'est gratuit, ils ont un message rien que pour eux. Vous pourriez faire un lien vers des produits à vendre, vers des formations en ligne payant tout gratuites. Par exemple, Photo Jojo, qui est une boutique qui vend des accessoires pour la photo, avait fait ce qu'ils appelaient la Photo Jojo ou l'iPhoneographie Academy. J'ai pas retrouvé le lien, j'essaie de retrouver le lien tout à l'heure. Et le mettre dans les liens de l'émission. Et en fait, pendant 7 jours, je crois que c'était, ils envoyaient un petit tutoriel sur comment faire des meilleures photos avec un iPhone, par exemple, ou un smartphone. Mais vous pourriez faire, par exemple, une expression, si je reprends quelqu'un qui travaillerait dans les langues ou dans la formation, ça serait une expression à connaître. Chaque jour, voici l'expression à connaître, etc. Ou chaque semaine, hein, parce que peut-être chaque jour, ça fait beaucoup. Et puis, les gens pourraient avoir cette espèce de rendez-vous habituel, de recevoir votre mail et se dire, bah tiens, je vais apprendre un truc là-dedans. Ça peut être un bon moyen. Vous pourriez faire de la curation de contenu. C'est-à-dire que la curation, c'est, je vous rappelle, c'est je trouve un contenu, je le repartage, je vais rajouter des petits commentaires, le fait de mixer plusieurs contenus intéressants va faire un nouveau contenu plus intéressant. Par exemple, c'est ce que je fais moi, et si je vous expliquais avec Review. Et puis, vous avez quelques autres trucs pertinents en ce moment. Par exemple, la lettre brief.me, qui est faite par des journalistes, qui vous envoie un résumé de l'actualité, à savoir dans un format qui est facile. Et ça, c'est un format qui est payant. Ils vous font payer ça entre 5 et 6 euros sur les formules d'abonnement. Je crois que ça monte un peu plus cher. Mais c'est un format qui est intéressant. Moi, j'étais abonné pendant quelques temps. Vous avez un résumé de l'actu avec des petites infos, des petits liens. Vraiment un truc très facile à lire. Vous avez une lettre très connue, c'est Time to Sign Off, qui tous les soirs vous envoie le résumé de l'actu. Si vous n'avez pas le temps de suivre l'actu, moi, je trouve que Brief est de meilleure qualité quand même. Mais je suis pas abonné à Brief depuis. Je suis plus abonné depuis quelques temps, donc je sais pas si le contenu de Brief est toujours aussi bon. Si c'est pas le cas, pardonnez-moi. J'aime bien aussi une newsletter qui s'appelle The Modern Desk. Alors qui est devenu Offscreen Dispatch. Bon, ils ont changé de nom parce que c'est un gars qui fait un magazine, qui vend en ligne. Donc la lettre lui sert de support pour se faire connaître. C'est une lettre dans laquelle il y a des sélections d'objets, d'applis pour avoir un bureau bien rangé, bien organisé. Enfin, vous voyez ce principe-là. Selon ces cas, alors celle-là elle est gratuite mais avec de la publicité. The Time to Sign Off, elle sera gratuite mais il y a de la publicité qui glissait dedans. Selon les modèles, vous voyez, il y en a qui sont payantes, qui sont gratuites, etc. Il y a plein de formats. Et puis, quand vous voyez, hein, quand vous êtes abonné à des blogs, des sites, des formations, vous voyez, il y a plein de formats de mails. En fait, vous avez une liberté qui est quand même très très importante là-dessus. Il y a une grande règle quand même à retenir. C'est que la vraie grande règle, c'est qu'il faut rechercher ce qu'on appelle l'engagement des cibles. L'engagement des cibles, c'est que les gens, il faut une manifestation volontaire de recevoir l'information. Donc c'est quelqu'un qui va faire la démarche de s'inscrire. à votre newsletter, à votre mail. C'est pas quelqu'un que vous allez forcer à s'inscrire. Alors, forcer. J'ai envie de dire, il y a des moyens de le forcer, de l'inciter à s'inscrire. Mais vous n'avez pas, vous n'avez pas à l'inscrire de force. C'est-à-dire, vous n'avez pas, vous, l'inscrire dans votre base de mail. N'achetez pas non plus des bases mail. Ça sert à rien, franchement. Mais, vous allez mettre des formulaires. Vous allez dire, voilà, moi, je vous propose ça. Inscrivez-vous par mail. Je vous propose un PDF à télécharger si vous inscrivez à ma newsletter. Ça, vous le forcez pas. Vous l'incitez, voilà. Vous avez des choses comme ça. Et donc, l'engagement, pour viser l'engagement, donc c'est quelqu'un qui veut recevoir volontairement votre mail, et puis vous allez lui proposer des choses qui sont pertinentes par rapport à ses attentes. Si vous lui dites, dites-lui dès le départ, voilà, je vous propose de m'abonner à ma newsletter, toutes les semaines, je vous envoie une newsletter avec une sélection d'actu, etc. Et ben, vous lui donnez ça. Voilà. Alors, de temps en temps, vous pouvez sortir un petit peu de la ligne, mais ne sortez pas trop de la ligne. Vous lui dites, toutes les semaines, je vous donne mes billets de blog. Vous faites ça. Et puis, vous pouvez compléter par un lien intéressant ou quoi que ce soit, mais ne sortez pas de la ligne. Si vous sortez de la ligne, en fait, ben vous risquez de vous retrouver avec des désabonnements ou des spams. Alors, venons-en aux outils. Il y a beaucoup d'outils de mail. Envoyer du mail, c'est relativement facile. Alors, les gens, moi, mes clients, les premiers trucs qu'ils font, c'est qu'ils prennent Gmail ou Outlook, ils envoient le mail à 25 personnes. Déjà, c'est pas pratique. En plus, il n'y a pas de stats. Et en plus, vous tombez dans les spams. Après, on a des plateformes qui sont plus connues. Je vous en cite deux. Hein. Vous avez MailChimp, MailJet. MailJet, c'est le français. Moi, j'aime pas l'interface de MailJet. J'aime beaucoup l'interface de MailChimp. J'ai 8 comptes MailChimp au total sur les différents blogs, etc. Et j'ai beaucoup de choses qui tournent sous MailChimp. Il y a d'autres outils, hein, AWBR, GetDrip, ActiveCampaign, etc. Vous en avez une palanquée. Ils ont une caractéristique, la plupart, c'est que ce sont des outils qui deviennent de plus en plus lourds et de plus en plus pénibles. Par exemple, MailChimp est un outil qui se bonifie avec le temps, mais qui, au fur et à mesure, rajoute des étapes, etc. Et la dernière étape qu'ils ont, c'est que, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, quoi. C'est que maintenant, quand MailChimp vous l'envoie un mail, une newsletter, il vous demande d'abord si vous voulez acheter une pub ou envoyer une newsletter. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont lancés dans l'achat publicitaire sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Et je n'ai aucune idée de pourquoi ils font ça. Bon, pour le pognon, hein, probablement. C'est une nouvelle source de revenus, mais pour moi, c'est lourd, quoi. Bref. En plus, c'est des outils qui servent à faire plein de choses. Vous avez de l'automatisation, de la collecte, différents types de mails. Vous avez des trucs qui sont pas mal, hein, pour simplifier quand même. Par exemple, MailChimp, vous pouvez faire de l'envoi par RSS. Vous mettez votre flux RSS, et puis tous les jours, s'il y a un nouveau truc dans votre flux RSS, il envoie le mail aux abonnés avec ça, moi j'utilise sur Cyberbunia. Dès qu'il y a un article, le lendemain de l'article, tous les jours à 13h, en fait, MailChimp vérifie qu'il y a des nouveaux articles dans mon flux RSS. Et si c'est le cas, il envoie un mail. C'est quand même super pratique. Et puis vous pouvez dire le mail ressemble à ça, faire vos petits trucs, mettre des images, etc. Vous avez plein de moyens de simplifier. Un truc qui est pas mal dans MailChimp pour simplifier, c'est que vous faites votre mail sur votre ordinateur, par exemple, et puis vous pouvez l'envoyer directement, la charger ensuite sur MailChimp facilement, sans passer par leurs éditeurs à eux, etc. Mais après, ils se sont rendus compte, je pense quand même, qu'il y a des trucs qui sont un peu lourds chez eux. Donc par exemple, ils ont mis aussi une application pour envoyer facilement une photo. Prenez une photo avec votre iPhone, vous l'envoyez facilement à vos abonnés. Il y a un truc que j'aime bien, et j'ai formé quelques personnes dessus, qui s'appelle Tiny Letter, qui est fait par eux aussi, qui vous permet d'envoyer un mail. Ils disent que c'est la newsletter pour le blogueur. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous envoyiez un billet de blog par mail. Donc c'est un éditeur qui est super simple en composition, etc. Du texte, je crois que vous pouvez mettre une image ou deux. Mais c'est vraiment comme si vous écrivez un billet de blog et que vous envoyez ça ensuite par mail. Voilà. Pardon, excusez-moi, je bois un coup, mais je commence à m'assécher. Alors, venons-en à à Review. Enfin, j'appelle GetReview parce que l'URL c'est getreview.co, mais c'est Review le nom de l'outil. C'est un outil qui est super intéressant. Déjà parce qu'il est beaucoup plus simple que les autres et parce qu'il envoie les mails beaucoup plus vite. Alors, moi j'utilise pour partager ma curation, c'est-à-dire mes liens que je trouve intéressants, et plus dedans je mets des liens vers mes contenus. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je considère, certes il y a des gens qui, vous savez l'histoire des 1000 vrais fans là et tout, bon, il y a des gens qui, je publie des trucs, ils vont suivre automatiquement parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Donc là, je dis pas ça, il y a la masse de personnes qui va faire ça n'est pas infinie, quoi. Et je me dis, il faut que j'arrive à toucher des gens qui ne soient intéressés par les thématiques que j'aborde et que je puisse leur apporter des choses que moi je ne produis pas, parce que je produis finalement un contenu qui est relativement limité. Bon, vous allez me dire, un podcast par jour, c'est pas si limité que ça, mais en newsletter à relayer par rapport à du blog, etc., c'est pas si simple que ça. Et il y a plein de choses sur Internet qui intéressent les gens qui sont intéressés par ces thématiques, si on parle de création de contenu, etc. Donc mon idée, c'était de dire, plutôt que de mettre que mes contenus à moi, et ça fait un peu fanboy, je dis pas secte hein, ni rien, mais ça fait un peu regarder comme ce que je fais est bien, et c'est tout, bon, c'est limité. Je mélange des liens de curation, donc des liens que je trouve intéressants, et puis à la fin, je mets aussi mes liens vers mes contenus à moi, et comme ça, vous avez un mix, en fait, qui me permet de faire à la fois la promotion de mes contenus, mais aussi de faire la promotion de ce que je fais, de la veille, de ce que je surveille, de mes thématiques, etc. Donc ça, c'est ce que j'envoie. Alors, j'en ai deux qui tournent en ce moment, des lettres comme ça. J'en ai une par rapport à mes activités pro. Donc c'est la lettre du créateur de contenu qui est liée à ce podcast, etc. Il y a même le même logo, etc. Je vous mets les liens dans les notes, hein, et puis vous les retrouvez sur mon blog. Et puis il y a la lettre de mon blog de mec, qui a le même principe. Sauf qu'elle part le dimanche, alors que l'autre part le vendredi, qui a des liens plutôt lifestyle et mode, plus quelques liens vers mes billets de blog, s'il y en a, ce qui n'était pas le cas toutes les semaines forcément. Et là, c'est là que Review est super fort, parce qu'en fait, Review, c'est un système, vous créez votre lettre, ils appellent ça des issues. Donc vous créez en fait le conteneur de votre lettre, hein, vous inscrivez, vous créez votre compte, il récupère par exemple vos infos Twitter, votre photo, il a deux modèles de lettres qui sont très épurés, et puis dedans, vous allez avoir une interface simple pour composer la lettre. Alors, comment vous allez composer la lettre? Il y a plusieurs manières. Vous allez pouvoir ajouter du texte, taper du texte, rajouter des images, mettre des intertitres, etc. Mais vous allez aussi pouvoir créer du contenu, vous créer une bibliothèque de contenu. Cette bibliothèque de contenu, vous pourriez par exemple la remplir avec un bookmarklet, une extension qu'ils fournissent pour les différents navigateurs, moi sur Safari ou sur Chrome. En fait, j'utilise les deux. Et donc je vois un article qui m'intéresse et je me dis, tiens, celui-ci va intéresser mes lecteurs. Qu'est-ce que je fais? J'ai un choix. Alors le choix de ma curation, je pourrais vous l'expliquer. Il faudrait que je fasse un processus, il faudrait que je l'écrive. J'ai un truc, je me dis, est-ce que le lien, je le garde pour maintenant? Est-ce que je le publie maintenant? Est-ce qu'il a une durée de vie? Voilà. Est-ce que je le partage? Est-ce que je le garde pour ma newsletter? Sur quel outil je le partage, comment je fais, etc. Est-ce que je garde dans mes favoris? Est-ce que j'en fais un billet de blog pour faire un rebond sur un billet de blog? Enfin, voilà, il y a tout un processus comme ça qui va se mettre en place. Et un jour, j'essaierai de faire un schéma d'ailleurs, c'est intéressant. Même pour moi, c'est intéressant de réfléchir à cette sélection. Mais donc, il y a des contenus, je dis, bah tiens, je vois un truc intéressant, une vidéo intéressante sur YouTube par exemple, je vais appuyer sur le bouton de l'extension, ça va la mettre dans ma bibliothèque de contenu. Et ensuite, je pourrais faire glisser ce contenu-là dans ma lettre le jour où je voudrais l'envoyer. Il peut aussi se connecter sur d'autres outils. Par exemple, si je fais ça, si je mets un article intéressant dans Pocket, et j'ai connecté l'outil avec Review avec Pocket, et en fait, il est capable d'aller voir dans mon Pocket quels sont les articles qui sont stockés. Il peut regarder aussi ce que j'ai partagé sur Twitter, que ce soit mes liens ou les liens des autres, mon Facebook, Medium, ce que j'ai écrit dans Medium, par exemple, il pourrait les récupérer. J'utilise aussi un outil qui s'appelle Refind pour trouver des contenus et stocker quelques contenus. C'est une sorte de bookmark, hein. Mais sociaux. Il est connecté dessus. Vous pouvez ajouter vos flux RSS. Alors ça peut être des flux RSS du podcast, ça peut être des flux RSS par exemple de mon blog, etc. Et puis dedans, ça veut dire que dans ces bibliothèques de contenus, je pourrais les glisser dedans et puis il va me faire des liens directement et pour les partager facilement. Vous pouvez vous mettre aussi un Instagram par exemple et puis vous pouvez le brancher sur d'autres trucs, Zapier et compagnie. Vous pouvez même le brancher sur du MailChimp pour qu'il récupère les abonnés à MailChimp si vous avez déjà des abonnés sur MailChimp. L'avantage de tout ça, c'est que vous avez un outil qui vous permet de créer du contenu relativement facilement. Vous pouvez ensuite ajouter du texte en le tapant, vous pouvez ajouter une photo en le tapant. La nouveauté, c'est que vous pouvez mettre une vidéo dedans. Je vous dis, c'est une nouveauté depuis hier, j'ai testé ce matin. Si vous mettez l'URL d'une vidéo sur YouTube ou Vimeo, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous récupérer en fait la vignette de la vidéo, insérer l'image et en cliquant sur avec la petite, vous voyez, la petite flèche de lecteur là, qu'on a sur YouTube. Et donc les gens, ils vont voir l'image, ils cliquent dessus, ça les envoie sur YouTube pour voir la vidéo. Ce matin j'ai testé, la vidéo est ajoutée en 5 secondes. Hein. Voilà, c'est par rapport au temps de je récupère l'image, je fais la vignette, je mets la petite flèche, etc. il y aura une solution que fait MailChimp. MailChimp, ils font des gifs animés, des vidéos, mais là, c'est une option qui est payante. Mais ce système-là est super facile. Et ensuite, donc, vous allez mettre tous vos contenus à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre une petite zone d'édito en haut qui a un style un peu spécifique. Vous allez pouvoir mettre des blocs de texte. Et puis, par un simple système de glisser-déposer, vous allez juste réordonner les choses. Vous mettre des intertitres, ordonner, structurer un petit peu votre lettre comme vous voulez. Et donc, vous allez la composer très rapidement. Moi, je vous donne mon processus. C'est que tout au long de la semaine, ce que je fais, c'est que donc quand je vois des liens qui m'intéressent, j'ai ce fameux processus de tri. Me dire, est-ce que j'envoie ça sur... Est-ce que je partage tout de suite sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, sur quel réseau social je le fais? Et souvent, je fais ça par buffer. Ou est-ce que j'attends un petit peu, puis je me dis, tiens, je peux le garder pour ma newsletter, pour mes abonnés. C'est une petite pépite supplémentaire pour mes abonnés. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les liens que je mets dans la newsletter, des fois, je peux les repartager sur les réseaux sociaux, mais plus tard. Vous voyez, il y a une espèce de... Mon lien, je le disais hier, je peux le partager 3-4 fois, mais de manière différente. Hein. Mais en général, quand je le mets dans la newsletter, je ne l'ai pas partagé avant. La priorité là-dedans va aller aux abonnés pour qu'ils aient la primeur de ça. Et puis, donc toute la semaine, je vais mettre des contenus, je vais charger ma bibliothèque. Et puis, le vendredi ou le dimanche, suivant la lettre, je vais récupérer les éléments, je vais... réordonner ça, et puis pour chaque élément, je vais mettre une petite phrase d'accroche, pourquoi je l'ai sélectionné, etc. La petite phrase d'accroche, en fait, je la mets même normalement, quand vous appuyez sur le bouton de l'extension, il va essayer de récupérer le début du contenu, une phrase intéressante. Par exemple, si vous sélectionnez du texte dans votre article, quand vous appuyez sur le bouton de l'extension, il va mettre ce texte-là il va l'ajouter dans la bibliothèque. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que quand je prends le lien, je rajoute toujours au moins un minimum de phrases de pourquoi j'ai sélectionné ce lien-là, pourquoi je juge qu'il est intéressant pour vous, mes lecteurs. Ça, je le fais tout au long de la semaine, et le jour de l'envoi, j'ai ces textes-là, je les remodifie, je réorganise, je me dis, tiens, je pourrais les organiser, je me rends compte que ma thématique va être sur Instagram, donc je vais organiser en Instagram, je vais mettre, tiens, ça c'est en anglais, donc je mets 3 liens en anglais, je vais mettre un outil, enfin, vous voyez, je vais recomposer ça, et donc ensuite, je me l'envoie en test, parce que vous pouvez vous l'envoyer en test, par mail. Vous pouvez avoir une version web, vous pouvez l'avoir sur écran, vous pouvez vous l'envoyer par mail en test. Et puis quand je suis prêt, j'appuie sur le bouton « Publier ». Voilà, c'est pas plus long que ça. J'ai regardé à peu près, ma newsletter me prend moins d'une heure à faire, à être envoyé. Et alors qu'avant, j'en étais arrivé à un stade où je voulais même plus revoir MailChimp pour faire ça, parce que ne serait-ce que sélectionner ces liens, les copier, les mettre dans des trucs et tout... Mais c'est long si vous faites ça sous MailChimp, mais c'est long. Review va à une vitesse, à comparaison. Enfin, c'est... Je sais pas. Moi, je pense qu'il va 10 fois plus vite. Parce que c'est tellement facile à faire, c'est tellement rapide que vous avez envie de le faire au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire. Alors que des fois, MailChimp, on n'a pas envie de se taper l'interface, quoi. Faut être honnête. L'un avantage aussi, c'est que il est gratuit. Bon, c'est du modèle freemium, hein, donc il est gratuit jusqu'à 200 abonnés. Alors, ça peut vous paraître pas très élevé, mais c'est quand même... Ça, si vous faites un système de collecte massive, etc., 200 abonnés, bon, c'est pas si rapide que ça à atteindre. Après, l'avantage, c'est que il commence à 5€ par mois. Et franchement, c'est pas mal comme formule, parce que vous avez monté à 1500 abonnés. Donc déjà, ça fait une masse qui est intéressante. Je pense d'ailleurs que si vous avez 200 abonnés ou 1500 abonnés, si vous leur vendez quelque chose et vous avez un retour, c'est-à-dire vous avez un abonné, dire 20% de vos abonnés qui vous achètent quelque chose ou qui cliquent sur vos liens, etc., vous verrez que vous serez peut-être pas si loin que ça de gagner un petit peu d'argent avec ça. Si vous avez 1500 abonnés dans une niche, honnêtement, vous pouvez vendre de la pub, vous pouvez sponsoriser, donc les 5€, sincèrement, vous pouvez très très facilement les rentabiliser pour comme ça. Bon, en plus, l'avantage de la personnalisation, c'est que vous pouvez avoir une URL, l'URL de votre nom de domaine de votre site. Vous pouvez avoir personnalisation des couleurs, enlever le logo, mettre des logos à vous, etc. Il y a quelques options qui sont intéressantes. J'ai envie de dire, même si vous avez moins de 200 abonnés, les 5€ sont intéressants à payer pour la personnalisation. Et donc, une fois que vous avez envoyé votre mail, vous avez des statistiques qui sont légères, hein, sincèrement, voilà, vous n'avez pas des statistiques énormes, mais vous savez qui a ouvert le mail, sur quels sont les liens qui ont été cliqués, etc. C'est moins puissant que MailChimp, parce que MailChimp vous dit précisément, il y a des survols, des zones, etc. Mais j'ai envie de dire, à la limite, c'est pas grave, quoi. L'important dans votre truc, c'est collecter des mails, Vous envoyez vos mails régulièrement, facilement, vous regardez si les gens sont intéressés ou pas et par quoi ils sont intéressés. Ce qui est intéressant, c'est de regarder s'il y a des mails, des sujets qui les intéressent plus que d'autres. Il y a deux raisons pour lesquelles des gens vont cliquer sur ou ne pas cliquer sur un sujet. On s'en est rendu compte, par exemple, je faisais des paris avec des collègues quand on envoyait des newsletters au conseil régional, par exemple, quand je travaillais au conseil régional. Je leur disais un truc. Je faisais le pari, je disais, pour moi, le mail qui va être le lien dans la newsletter qui va être le plus cliqué, c'est celui-ci. Et des fois, je leur donnais le dernier lien dans la newsletter. Et j'en ai toujours un collègue qui pariait toujours sur le premier lien. Il n'est pas tort, parce que le premier lien, c'était la une. Vous savez, vous le mettez en gros. Le dernier lien, c'est, vous savez, quand vous avez 10 liens dans une newsletter, vous avez tendance à faire défiler et vous arrivez en bas. Et en bas, si vous mettez un lien qui est super intéressant, les gens peuvent cliquer dessus. Moi, je vérifie régulièrement. Essayez des fois de mettre un lien intéressant en dernier. Ça peut paraître contre-intuitif, mais moi, par exemple, dans mes newsletters, à la fin, c'est mes billets de blog. Et ce que je fais pour qu'ils soient quand même plus visibles, c'est que je vais mettre une image. À certains, je vais pas mettre d'image, mais là, je vais demander à Review de laisser l'image s'afficher. Par exemple, c'est un moyen, vous voyez, pour les gens défilent, ils arrivent. Si je me rends compte que ça marche pas, je change le contenu. Si je me rends compte qu'il y a des types de liens que les gens ne cliquent, n'utilisent jamais, à la limite, je me dis, soit ça ne les intéresse pas, soit je les ai mal introduits, etc. Mais les statistiques, je vous ai dit hier, ou il y a quelques jours, ne regardez pas trop les statistiques, en termes de vues, etc. Mais quand vous en avez quelques-unes, utilisez-les pour affiner ce que vous faites, pour progresser, etc. J'ai oublié de vous dire qu'une manière, Review gère les manières d'inscription des gens. Vous avez trois trucs, on va dire. Vous avez un profil public. Votre profil public, il y a votre photo, votre description et les lettres que vous avez déjà envoyées. Même si vous n'avez pas d'abonnés, faites une lettre type pour que les gens voient à quoi ils vont s'abonner, tout simplement. Donc ils disent, bah tiens, voilà, cette lettre m'intéresse. Vous avez aussi un plugin WordPress. C'est-à-dire que sur WordPress, le plugin, vous l'installez, ça vous crée un widget que vous pouvez insérer aussi avec un shortcode dans un article. Et donc, vous avez un formulaire d'inscription à votre newsletter qui peut être soit dans vos colonnes, soit dans vos pieds de page, soit directement dans un article ou une page de votre WordPress. Et puis, il vous génère un formulaire d'inscription, un copier-coller, hein, tout simple, que moi, par exemple, je peux mettre tranquillement dans mon outil de blog que j'utilise, qui est Ghost, chez moi. Je n'utilise pas WordPress, enfin, pour mon blog Bertrand Soulier. Et donc, avec tout ça, vous avez un élément dans OneNewsletter qui est pas mal. Alors, il a ses limites. Vous n'avez pas d'automatisation, des statistiques qui sont un peu légères, je vous l'ai dit. Une seule lettre, par contre, alors a priori, ça, je pense qu'ils vont finir par le faire évoluer. Mais ce qui veut dire que, par exemple, dans mon cas, moi, je dois avoir deux lettres, enfin, deux comptes. Pour ça, j'utilise Safari pour une des lettres et Chrome pour l'autre lettre. Si vous êtes sur Chrome, vous avez des personas, vous passez d'un persona à l'autre. Enfin, vous trouvez un moyen, il n'y a pas de souci là-dedans. C'est en anglais et la personnalisation vous permet de personnaliser les messages et les franciser. Mais l'interface, par défaut, elle est en anglais. Certains trouveront qu'il y a seulement deux designs, et c'est vrai que par rapport à MailChimp, qui vous en propose 300, ça peut paraître léger, mais par expérience, dans MailChimp, les designs, vous les utilisez jamais. Ou très peu, vous faites un modèle, et tout. Là, vous avez deux modèles. Sincèrement, ça suffit. En payant 5€, vous aurez la personnalisation des couleurs, un petit peu plus de personnalisation. Mais j'ai envie de vous dire, la lettre, elle arrive super clean, ceux qui sont abonnés à la lettre le savent. Je vous mets le lien pour vous abonner à mes lettres, vous verrez que ça vous donne un rendu qui est sympa. Et donc, c'est un outil pratique qui, pour moi, me permet d'envoyer plus facilement mes mails. Mon conseil, c'est que même s'il a ses limites, pour vraiment en conclusion, si je vais vous dire, même s'il a quelques limites, cet outil-là, il a une facilité d'usage, il a qui est très pratique. Vous n'êtes pas obligé de faire de la curation avec, hein, vous pourrez mettre que vos liens à vous. Vous pouvez mettre des pavés de texte, mettre vos propres textes. Vous pouvez taper un texte très long si vous voulez, avec quelques liens, etc. Vous pouvez regarder, par exemple, sur Review, vous avez un truc qui s'appelle Discover, je crois, ou Explore, qui vous montre les lettres d'autres personnes. Et regardez les différences de lettres, les thématiques, etc., qu'ils apportent. Vous allez voir, il n'y en a aucune qui est structurée pareil. Il y en a qui ont du texte, des images, il y en a qui ont que des images, d'ailleurs, j'ai vu. Il y en a qui ont du texte, etc. Vous allez pouvoir voir ce qu'ils font. Et j'ai oublié de vous préciser un autre truc, par contre, et ça c'est important. Pour faire connaître votre lettre, c'est que Review, quand vous envoyez votre newsletter, vous avez le moyen de partager le lien. Chaque newsletter a un lien public. Et vous avez un moyen de partager ce lien public quand vous l'envoyez sur Twitter, LinkedIn, même Medium, vous pouvez partager votre lettre, Facebook. Et donc pour chaque réseau social, il va permettre de mettre un petit bout de texte avec l'URL qui va aller avec, etc. C'est pas mal au départ pour faire découvrir votre mail, votre newsletter. Vous envoyez votre newsletter et vous dites, bah tiens, les premières fois, je dis, bah voilà, et vous l'avez vu certains. Si vous étiez abonné à la newsletter, voici ce que vous auriez vu, par exemple. Si vous voulez gagner quelques abonnés aussi, vous pourriez dire, bah tiens, je lance une newsletter, abonnez-vous à ma newsletter, et vous envoyez un lien directement, par exemple, vers votre profil sur Review, les gens pourront s'abonner. Donc vous voyez, c'est un outil qui est pour ça, et d'une simplicité redoutable. Derrière, que vous prenez AWBR et compagnie, vous allez trouver ça, mais d'un chiant, d'une lourdeur, mais c'est pas possible, quoi. Et donc, mon conseil, ça serait de vous dire, c'est un très bon outil pour commencer. Voilà, vous pouvez vous entraîner avec ça, c'est une interface simple. Ça vous donne une très bonne base pour envoyer très régulièrement du contenu, pour tenir à jour vos abonnés, pour essayer de vous constituer des abonnés, etc. Bon, si un jour ça ne vous suffit pas, vous avez un bouton exporter les abonnés et vous partez ailleurs. Vous pouvez partir sur MailChimp, les importer sur MailChimp, etc. Ou un autre système et continuer votre vie ailleurs. Enfin voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que l'avantage d'un outil simple comme ça, c'est que pour vous, ça vous permet d'envoyer facilement votre contenu. Et vous avez compris que moi, c'est ce que je recherche. C'est, je vous l'ai dit, c'est le but du jeu, c'est de publier, quoi. C'est pas de maîtriser des outils compliqués. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté WordPress sur mon blog perso, parce que au bout d'un moment, rentrer dans l'interface WordPress m'énervait au plus haut point. Et donc je suis passé sous Ghost. D'ailleurs en ce moment je suis en train de créer un autre blog, mais ça je vous le garde en surprise. Et cet autre blog est sous Ghost aussi. Voilà, donc il me reste un WordPress, qui est mon blog de mec, que lui va rester en WordPress. Mais le reste j'ai basculé sous Ghost, où il y a une interface qui est beaucoup plus légère, ça publie beaucoup plus rapidement. Pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Et Review, c'est pareil. Avant je voulais plus rentrer dans MailChimp, ou pour des clients je rentre dans MailChimp. Pour Cyberbounia, j'ai gardé MailChimp parce que j'ai des trucs. J'ai l'automatisation, j'ai des modèles, ça va beaucoup plus vite. Mais Review me permet de publier beaucoup plus rapidement, d'envoyer beaucoup plus rapidement mes newsletters, si bien que je suis passé à un rythme d'envoyer deux newsletters par semaine, une créateur de contenu, une lifestyle par rapport à mon blog de mec. Et ça, c'est un gain, mais inestimable pour moi. C'est un gain de trafic sur mes sites, c'est un gain de visibilité, c'est un gain de fidélisation, c'est un gain de dire, bah voilà, voilà ce que je fais, je montre ce que je fais, etc. Et petit à petit, comme ça, je gagne des abonnés, quoi. Voilà, il y a des nouveaux abonnés qui arrivent régulièrement dessus et autres. Et quand vous arrivez à constituer comme ça une base d'abonnés, bah derrière, ça vous ouvre d'autres perspectives. Leur monter d'autres contenus, leur proposer des choses, dialoguer avec eux, échanger. Alors, peut-être vendre des choses. Hier, je parlais de financement participatif, de Patreon, etc. Mais vous arrivez à aller plus loin avec. Voilà. Je voudrais conclure en disant un truc, et vous l'avez compris ce que je vous l'ai déjà dit, l'important n'est pas d'avoir un outil puissant, mais d'utiliser l'outil pour publier. Alors, mon conseil, c'est choisissez, si vous avez envie de faire du mail, choisissez Review ou un autre, mais choisissez un outil qui vous convient. Moi, vous avez compris que je vous conseillerais Review, parce que je trouve que c'est un outil qui est super puissant, mais publiez. Et puis, si vous le faites, envoyez-moi vos liens vers votre profil sur Review. Envoyez-moi vos newsletters, faites-moi suivre les liens, abonnez-vous à mon groupe Facebook de discussion et partagez les liens, montrez-moi ce que vous faites, etc. Et partageons, publions, montrons les uns aux autres ce qu'on fait, etc. Osons prendre le micro, osons parler, car finalement, Internet appartient à ceux qui s'expriment dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée si vous m'écoutez en fin de journée, et je vous dis à demain. Allez, ciao.